Bonjour chers amis de Radio Silence, nous sommes le vendredi 18 novembre 2011 et nous allons parler des prédateurs publics. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Vous vous rappelez de la célèbre apostrophe, les événements tragiques sur le plan économique que connaissent les pays occidentaux mettent en lumière une autre maxime, prédateurs publics de tous les pays, unissez-vous. Et je vais montrer la réalité de ce principe avec toutes les conséquences néfastes qui en résultent. C'est urgent car l'actualité est brûlante à ce sujet. En Grèce, nous savons, grâce à un journal espagnol, que Papandréou, avant de quitter le pouvoir, a commandé 400 chars pour 1 milliard de dollars aux USA. Il est impossible qu'il n'y ait pas de commission à l'appui. Silence radio dans le monde entier sur ce vrai scandale. Une députée grecque a écrit un journal pour appeler ses collègues à renoncer à certains de leurs incroyables avantages, comme les voitures gratuites, les 310 euros accordés pour assister aux commissions et les doubles retraites. Elle s'est faite fortement rabrouer par son parti, bien que des mesures aient été adoptées. Mais au moment où toute l'Europe vole au secours de la Grèce, aucun gouvernement demande l'abandon massif des privilèges des élus. La solidarité entre prédateurs publics de tout pays est manifeste. En Italie, les privilèges des politiciens sont immenses, tellement que leur groupe est couramment désigné par le terme de caste. Le symbole est si fort que celui qui n'appartient pas à la caste est considéré comme nul. Les salaires flambent, les membres de la caste disposent de privilèges insupportables, comme des voitures, des droits au voyage gratuits, la nourriture gratuite, la disposition d'un grand nombre de collaborateurs. Le nouveau Premier ministre a-t-il annoncé qu'il porterait le fer rouge dans cette situation inadmissible qui a conduit le pays à perdre pratiquement son indépendance? Les prétendus experts qui font le voyage de Rome pour lui imposer des mesures humiliantes n'ont pas du tout dans leur mission de réduire d'une façon douloureuse les privilèges de la caste. Or pourtant, récupérer de l'argent sur les prédateurs publics serait un élément essentiel du programme nécessaire et possible de redressement du pays. En France, la situation n'est pas meilleure. Mes auditeurs habituels savent l'étendue des prélèvements abusifs des grands prédateurs publics sur le PIB. J'ai écrit un livre, aujourd'hui épuisé, « La République fromagère, comment les politiques font la fête avec l'argent des pauvres ». Comme cela dépasse le cercle étroit des politiques, j'ai créé pour englober tous les prédateurs le sobriquet de « Hi-Fi ». Dans la suite de cette émission, nous utiliserons le terme italien de « caste ». L'omerta qui protège la caste en France est totale. François Hollande a pris l'engagement, en cas de succès à l'élection présidentielle, de réduire sa propre rémunération de 30%. Bravo! C'est peut-être le seul point intéressant de son programme. Il n'a encouru que les moqueries de ses adversaires et n'a pas généralisé la proposition à tous les élus, ce qui lui donnerait de l'intérêt. Quant à Bruxelles, la richesse insolente des eurocrates est connue. Ils sermonnent à qui mieux les pays qui ne font pas les efforts qu'ils demandent. Ils se garderaient bien de renoncer eux aussi à une part importante de leur propre richesse, ce qui serait un argument de poids dans les discours. Personne parmi les gouvernements des États membres ne demande cette mesure évidente, et ceci par une solidarité très claire. Comment expliquer à la fois le pillage organisé et la solidarité internationale dans le pillage? Tout d'abord, se trouve la force fiscale qui alimente sans fin le butin public. Un économiste voit trois destinations possibles de ce gigantesque butin. L'enrichissement personnel de la caste, la destruction pure et simple de l'argent lui-même, il n'existe plus pour personne, une utilité réelle pour des groupes déterminés ou pour la collectivité. L'observation montre que la première catégorie tend très vite à dépasser les autres et que la vitesse s'accélère à mesure que les unités s'agrandissent, voire l'Europe et l'Empire unisien. La raison en est l'impossibilité des vrais contrôles à ces niveaux de plus en plus élevés. La conséquence connue est le carriérisme politique. Gagner sa vie honnêtement sur un marché libre implique de rendre de vrais services aux autres. Dans un effort d'adaptation permanente, avoir accès au trésor du butin étatique est un autre choix de vie qui a aussi ses exigences, mais ouvre des richesses pratiquement illimitées sans devoir rendre finalement de véritables services à la communauté. La conséquence à la fois du pillage et de la solidarité dans le pillage est l'effet de ruine qui est double. Si les membres de la caste empochaient l'argent et les privilèges sans s'activer, les impôts seraient lourds, mais ce serait, paradoxalement et en quelque sorte, le prix à payer pour obtenir notre liberté. La deuxième ruine est que pour justifier leur formidable statut, ces privilégiés s'activent et se disent débordés. C'est alors le déluge de lois qui nous tétanise de tous côtés. Après l'énoncé de ces faits communs, peu ou prou à beaucoup de pays occidentaux, ne nous étonnons pas que dans ces pays, un véritable fossé se creuse entre les prétendues élites politiques et les autres, car ceux-ci en ressentent cruellement les effets. Les perspectives à ce sujet ne sont pas brillantes. Si aucun État européen ne réclame que les eurocrates rendent leur gigantesque butin, c'est bien parce que maints dirigeants, sans exception, espèrent bien un jour se glisser dans la peau bienheureuse d'un de ces eurocrates. Envolons-nous vers l'ONU, centre nerveux du pouvoir totalitaire mondial? Qui peut jamais connaître à la fois le nombre, le nom et les activités de sa galaxie d'agences? Quant à leur richesse, qui aussi peut la mesurer? Un pays peut avoir des excédents budgétaires et se plaindre qu'il ne soit pas assez fort. C'est le cas de la Suisse. Il était prévu 2,5 milliards de francs pour 2011 et ils reviennent à 1,4 milliard. En cause, une diminution des recettes fiscales et des dépenses engagées peut être à tort pour lutter contre la cherté de la monnaie. Rassurons-nous, nos voisins ne sont pas prêts de déposer leur bilan comme tant d'autres. Nous rappelons que les élus sont si peu payés qu'ils doivent, pour la plupart, continuer leur métier afin de boucler leur mois. Le résultat bénéficiaire est double, moins d'impôts et surtout moins de lois. Quant aux ministres, ils n'ont pas de voiture officielle et vont à leur travail par leurs propres moyens. Le président de la Confédération dispose d'une voiture de fonction. Il est vrai que le peuple suisse a une arme redoutable, à savoir le référendum d'initiative populaire. Le pouvoir actuel l'a organisé en France dans un but purement électoraliste, mais comprenant la puissance de l'arme, il l'a rendue aussitôt inopérante par sa complexité. Dans les pays nordiques, pourtant assez socialistes, la cupidité du personnel politique est souvent tenue en laisse. L'idéal serait que dans un seul pays, un politique crédible comprenne qu'en abandonnant la proie du butin public, il peut à la fois rallier les suffrages et libérer son peuple. L'exemple pourrait faire tache d'huile. Est-ce trop rêvé? Je vous laisse, chers amis, à vos pensez. Et en attendant, je vous dis à mardi prochain.